Le message d'aujourd'hui a pour titre Les miracles. Alors, je vais vous parler au cours du message principalement de deux sortes de miracles. Les miracles publics, spectaculaires, et les miracles d'ordre plus privé, qui sont moins spectaculaires pour le public autour, mais qui sont tout aussi encourageants pour les membres de l'Église. Deux sortes de miracles. Précisons, les miracles publics, ce sont les miracles qui sont faits aux yeux du grand public. Ce sont des miracles éclatants et ça provoque des réactions, comme on a vu dans l'histoire. Je vous donne un exemple. Allez dans Actes chapitre 6, s'il vous plaît. Actes chapitre 6, et nous allons lire les versets 7 et 8 qui parlent d'Étienne, qui a accompli plusieurs miracles. Ça, c'était au temps des apôtres. Quand je vous dis les miracles publics éclatants, il y en a eu beaucoup au temps des apôtres, au moment du début de l'Église du Nouveau Testament, parce que Dieu mettait son sceau sur où était sa vraie Église. Alors, Actes 6, versets 7 et 8. La parole de Dieu se répandait de plus en plus. Le nombre des disciples augmentait beaucoup à Jérusalem. Et une grande foule des sacrificateurs obéissait à la foi. Regardez le verset 8. Étienne, plein de grâce et de puissance, la grâce et la puissance de Dieu, faisait des prodiges et de grands miracles parmi le peuple. Et c'était vu, c'était éclatant. Et c'est de ça dont je vous parle comme le premier type de miracle. Les miracles aux yeux du grand public, très impressionnants. Et ça créait des réactions. Maintenant, la deuxième sorte de miracle, que j'appelle de type privé, c'est des miracles qui sont plus personnel, qui s'adresse à une ou deux personnes dans l'Église. Ces miracles-là sont faits pour l'Église, pour encourager l'Église, pour soutenir l'Église, pour bénir ceux qui sont en train de se préparer pour servir dans le monde de demain. Et ces miracles-là, pour la plupart, ne sont pas perçus, ils ne sont pas connus par le public en général. Ça, c'est à notre époque. Et à notre époque, il y a toutes sortes de miracles qui se produisent par la puissance de Dieu. Je vais en donner quelques exemples. Tout à l'heure. Mais il n'y a pas de grand miracle public, de grand miracle éclatant vu par tout le monde. Par exemple, il n'y a pas d'aveugle qui recouvre instantanément la vue lors d'une onction par un ministre à l'hôpital, ou il n'y a pas de paralytique qui tout à coup se lève et se met à marcher après avoir été oint. Il n'y a pas de résurrection comme ça a eu lieu au moment de l'Église originale du Nouveau Testament au début. Alors, question, pourquoi est-ce que les ministres de l'Église de Dieu, de nos jours, n'accomplissent pas la même sorte de miracle éclatant que ceux qui ont été faits au temps des apôtres originaux? Pourquoi? Vous vous êtes peut-être déjà vous aussi posé la question. Bien sûr, on assiste aujourd'hui, puis avec beaucoup de joie, à des miracles qui ont lieu. Souvent, pour l'Église locale, pour nos petites églises locales. Et parfois, on reçoit des nouvelles, par exemple, d'une guérison, d'une protection spéciale qui a eu lieu dans une autre église à travers le monde. Là, l'Église nous en informe, mais c'est pas annoncé régulièrement non plus. Mais ce ne sont pas des miracles de type spectaculaire. Puis de façon générale, ils passent à peu près inaperçus aux yeux du public. Je pose la question, pourquoi? Vous allez voir. Il y a une raison principale. Il n'y a pas seulement une raison. Il y a une raison principale, il y a une deuxième raison aussi très importante qui va ensemble. Il y a d'autres raisons aussi, mais je vais vous donner ces raisons-là tantôt plus clairement. Avant d'aller plus loin, j'aimerais par contre qu'on définisse c'est quoi un miracle. Je parle pas maintenant d'un miracle, par exemple, on dit la science a accompli un miracle parce qu'elle a découvert quelque chose. C'est pas un miracle selon Dieu, là. Eux autres, ils disent miracle dans le sens la science a fait une découverte extraordinaire. Mais ils n'ont rien inventé, là. Ils ont pris des choses dans la nature, ils ont trouvé quelque chose. Moi, je vais vous définir un miracle, et c'est de ça que je parle aujourd'hui. Un miracle selon la Bible, bibliquement parlant. Et un miracle selon la Bible, c'est un fait ou un événement extraordinaire, qui sort de l'ordinaire, et qui est accompli directement par Dieu ou par le biais d'un de ses ministres. Et ces interventions-là de Dieu, qu'elles soient directes pour quelqu'un ou qu'elles soient via un ministre, ça change le cours normal des choses qui ont lieu à ce moment-là. Il y a des choses qui sont changées, qui n'auraient pas dû être changées s'il n'y aurait pas eu cette intervention divine puissante. Je vous donne quelques exemples rapidement. Exemple de miracles courants dans l'Église à notre époque, qui ne sont pas des miracles foudroyants que tout le monde voit. Par exemple, protection des dangers. Combien de fois Dieu nous a protégés? On se rappelle, on a vécu des choses. Même dernièrement, j'ai vu 3 cas de membres de l'Église qui auraient pu avoir des accidents de voiture graves et qui en ont été protégés. Et s'ils n'avaient pas été protégés, il y aurait eu des conséquences graves. On réalise après coup parfois. Comme par exemple, et ça m'est déjà arrivé, d'avoir fixé une heure de départ de la maison pour aller quelque part, puis à un moment donné, d'avoir été empêché de partir à cette heure précise, moi qui ai retardé, pour réaliser seulement quelques minutes plus tard sur la route que si on avait parti à l'heure prévue, on aurait probablement été mêlé dans le grave accident qui bloquait toute la circulation. Dieu a protégé. On le voit parfois après coup. Alors, ce sont des miracles parce que ce sont des interventions de Dieu qui changent le cours des choses. Il y a parfois des besoins comblés. On a des besoins, Dieu intervient pour les combler. Nous, on a vécu ça dernièrement. Parce qu'au début de la pandémie, il y a plusieurs mois déjà, mon épouse avait besoin de changer d'ordinateur. Et on a fait des démarches pour en trouver un, celui qu'on avait besoin. Il n'était pas en stock à ce moment-là, on a attendu un peu. Lorsqu'on est allé finalement, il y avait presque personne au magasin parce que là, la COVID-19 avait commencé à faire beaucoup de ravages et il y avait des restrictions sur les déplacements. Et comme il y avait peu de personnes, le jeune homme qui était en charge du département des ordinateurs a pris le temps avec mon épouse de tout lui programmer ce qu'elle avait besoin. Elle est partie avec l'ordinateur prêt à fonctionner. Nous, on n'est pas habitués de faire ces choses-là. Alors, il avait exactement fait tout ça. Et vous savez quelque chose? Le lendemain, le magasin et le centre d'achat étaient fermés. Et ça a duré longtemps. Et depuis ce temps-là, on peut utiliser cet ordinateur-là qu'on a absolument besoin pour corriger les sermons qu'on fait, pour préparer les émissions de télévision, pour faire nos traductions, pour compléter le travail de l'œuvre. Alors, voyez-vous comment Dieu a pourvu un besoin, il a ouvert les portes. Il nous a même donné de trouver grâce aux yeux de la personne clé du département qui a tout fait pour nous. Normalement, il n'aurait pas tout fait ça là, pour nous. Il a tout mis au point, l'ordinateur était prêt à fonctionner tout de suite. Alors, il y a comme ça des besoins comblés, des portes qui s'ouvrent, et parfois il y a des portes qui se ferment. C'est encore des miracles, c'est-à-dire une intervention divine qui change le cours des choses pour que certaines choses se produisent ou ne se produisent pas. Cette année, nous devions aller à la fête des tabernacles à Drummondville. Tout était prêt. L'hôtel était prêt à nous recevoir. On avait tout programmé. Les gens avaient leur bagage dans l'auto. Je sais que les clavettes avaient leur bagage dans l'auto. D'autres également. Et un jour avant que M. et Mme Arsenault partent de l'Ouest par avion, ils avaient déjà leur billet pour venir sur Montréal et ensuite à Drummondville, vu que M. Arsenault était coordonnateur de la fête. Une journée avant, nous avons reçu des informations qui nous permettaient de décider de ne pas tenir la fête physiquement à Drummondville. Tout s'est réglé un jour avant et M. et Mme Arsenault ont pu changer leur billet d'avion pour partir plutôt vers l'ouest, vers Red Deer, où M. Arsenault a été avec les membres de ses églises là-bas. Et il a pu, à cause des bénédictions de Dieu et des moyens techniques que nous avons, diriger toute la fête des tabernacles. Mais à partir de là, même si nous étions reliés avec les Antilles, Montréal et nous ici et tout ça. Alors voyez-vous, Dieu est intervenu pour fermer la porte à ce moment-là. Mais ça aussi, c'est un miracle. Et on ne le réalise pas toujours, mais ce sont des interventions divines qui sont des miracles, qui changent le cours des choses. Maintenant, c'est la même chose au niveau des guérisons. Quand on est malade, on a un commandement qui nous dit « Demandez à un ministre de vous oindre. » S'il ne peut pas y aller en personne, comme c'est le cas maintenant, nous préparons, comme Paul faisait, un linge joint sur lequel nous prions et nous vous l'envoyons. Et à ce moment-là, même si le linge joint ne se rendait jamais, Dieu a reçu la demande qui a été faite par la personne malade, qui a été faite par le ministre qui a mis de l'huile d'olive sur le petit linge joint avant de le poster. Même si le linge n'arrive jamais, la demande a été reçue par Dieu et Dieu intervient selon sa décision. Parfois, la guérison, elle est immédiate. Comme j'ai vu dernièrement encore, quelqu'un qui a eu des symptômes graves, il risquait d'avoir un problème de cœur sérieux, et la personne a demandé à un ministre de le joindre. Le ministre a prié pour lui, il a mis sur la poste un adjoint. Et graduellement, les symptômes ont disparu et ne sont pas revenus. Parfois, Dieu va venir au niveau d'une chirurgie. Il va venir les mains du chirurgien pour que tout réussisse. Parfois, c'est progressif comme ça. Et dans tout ça, ce que Dieu cherche d'abord, c'est que nous apprenions ce que nous avons à apprendre et surtout que nous apprenions à compter sur lui. Et même que nous apprenions à recevoir un non comme réponse à nos demandes pour être guéris et de continuer à faire confiance à Dieu en sachant qu'il va nous guérir. S'il ne nous guérit pas maintenant, il peut nous guérir à la résurrection. S'il nous laisse s'endormir du sommeil de la mort. Et vous savez quoi à ce moment-là? À ce moment-là, la personne, l'esprit de la personne est dans un lieu de sécurité extraordinaire parce que son esprit est auprès de Dieu en attendant le moment de la résurrection. Je me rappelle une phrase de M. Appartient dans un de ses messages. M. Appartient disait, « Dieu nous donne toujours ce dont nous avons besoin. » Pas ce que nous désirons, mais ce dont nous avons besoin pour atteindre le but que Dieu a pour nous, qu'on puisse arriver à la vie éternelle. C'est ça que Dieu a en tête, en fonction du but, là où on est, ce qu'on a besoin. Et même s'il ne répond pas favorablement à une demande immédiate, s'il répond non ou pas tout de suite, il nous donne le courage de passer à travers si nous restons attachés à lui et que nous lui faisons confiance. On dit, Dieu, je vois pas de guérison, je vois pas de changement, mais c'est toi qui es en charge. Et je m'en remets à toi. Et quand je vois les gens faire ça, je vois chez eux une paix d'esprit formidable. Parce que la paix d'esprit, elle vient de Dieu quand on remet notre confiance entre ses mains. Tout ce que Dieu fait dans la vie de chacun de ses appelés en ce moment, ce sont des miracles. Chacune de ses interventions est un miracle. Et ces interventions changent le cours des choses pour telle ou telle situation. Guérison ou non, porte ouverte ou fermée, besoin comblé ou non, protection, trouver grâce aux yeux de quelqu'un, ainsi de suite. Mais à notre époque, ce n'est pas spectaculaire pour les gens autour. C'est ce que je veux dire. Et c'est pour ça que je vous fais la différence aujourd'hui entre deux types de miracles, ceux qu'on voyait souvent au début de l'Église, au temps des apôtres, et les autres qu'on voit plus souvent maintenant, ceux qui passent inaperçus aux yeux du public. Dans le passé, chaque fois que Dieu a fait des miracles spectaculaires, je veux dire, c'est parce que son œuvre en avait besoin. Il fallait que s'accomplisse à ce moment-là une étape précise de son œuvre. Il y avait des circonstances précises. Allons dans l'Ancien Testament à Exode, chapitre 7, s'il vous plaît. Exode, chapitre 7. On va voir certaines choses ici. Exode, chapitre 7. C'est avant que Dieu envoie les plaies sur l'Égypte pour que son peuple puisse sortir d'Égypte. Avant ça, Dieu parle à Moïse et à Aaron. Il leur dit de faire quelque chose. Et c'est intéressant de voir. Moïse et Aaron s'apprêtent à faire le travail que Dieu va leur demander pour aider le peuple à sortir d'Égypte. Exode 7, et le verset 8 à 12. L'Éternel dit à Moïse et à Aaron, « Si Pharaon vous parle et vous dit, faites un miracle, tu diras à Aaron, prends ta verge et jette-la devant Pharaon. Elle deviendra un serpent. » Moïse et Aaron allèrent auprès de Pharaon et ils firent ce que l'Éternel avait ordonné. Et c'est toujours ce qu'il faut faire. Aaron jeta sa verge devant Pharaon et devant ses serviteurs et elle devint un serpent, tel que Dieu avait dit. Mais Pharaon appela des sages et des enchanteurs, et les magiciens de l'Égypte, eux aussi, en firent autant par leurs enchantements. Ils jetèrent tous leurs verges, et elles devinrent des serpents. Impressionnant. Mais l'histoire ne s'arrête pas là. La dernière partie du verset 12 nous affirme l'autorité de Dieu. Et pourquoi Dieu est en train de faire ça? Il prépare des choses encore plus grandes, et il manifeste sa supériorité totale. Et la verge d'Aaron engloutit leur verge. Donc, la verge d'Aaron, qui était devenue un serpent, a mangé tous les autres serpents qui étaient là. Après ça, il y a eu les 10 plaies d'Égypte chacune annoncée par Moïse, selon l'ordre de Dieu. Ça, ça a été des miracles publics, spectaculaires, de très grande ampleur. Et là aussi, c'était pour manifester son autorité et pour préparer la sortie de son peuple d'Égypte. Ça prenait des choses à grand déploiement. Et je vais plus loin parce qu'écoutez, malgré ces succès de Moïse, Dieu n'a pas toujours répondu oui à toutes les prières de Moïse. Comme c'est la même chose avec nous, c'est la même chose avec les ministres de Dieu aujourd'hui. Dieu ne répond pas toujours oui. Il répond oui si c'est la bonne chose, si c'est ce qui convient, si c'est ce que nous avons besoin individuellement ou si c'est ce que son œuvre a besoin. Allez dans Nombre chapitre 12, juste un peu plus loin dans le livre des Nombres. On va aller au chapitre 12. Ici, c'est le passage où Marie et Aaron, le frère et la sœur de Moïse, se sont rebellés contre Moïse. Ils l'ont accusé d'avoir marié une femme étrangère plusieurs années avant et ils disaient qu'il était aussi important que Moïse. C'était de la rébellion et Dieu a vu que c'était contre lui qu'il se rebellait. Parce que quand on se rebelle contre l'autorité fixée par Dieu, c'est contre Dieu qu'on se rebelle. Mais ce qui est arrivé après ça, c'est que Dieu a fait en sorte que Marie soit frappée instantanément d'une lèpre sur tout son corps. Et là, Moïse a prié Dieu de la guérir, mais Dieu n'a pas répondu tout de suite. Regardez, Nombre 12, versets 13 et 14. Moïse cria à l'Éternel en disant, « Ô Dieu, je te prie, guéris-la! » Et l'Éternel dit à Moïse, « Si son père lui avait craché au visage, ne serait-elle pas pendant 7 jours un objet de honte? Qu'elle soit enfermée 7 jours en dehors du camp, après quoi elle y sera reçue. » Alors voyez-vous ici, Marie devait apprendre une leçon. C'était sans doute elle qui avait été l'instigatrice de la rébellion parce qu'elle est nommée en premier dans ce passage-là. Allez maintenant à Actes chapitre 20, s'il vous plaît. Actes chapitre 20. Actes chapitre 20. On va voir autre chose ici. C'est le même phénomène qui s'est produit pour l'apôtre Paul. On apprend toutes sortes de choses à travers ces événements-là. Le même phénomène s'est produit pour Paul qui a accompli lui-même, vous le savez, de grands miracles, des très grands miracles. Il a même ressuscité un jeune homme à un moment donné, comme on voit. À un moment donné, Paul discourait depuis très longtemps, la nuit avançait, et il y a un jeune homme qui était assis au niveau d'une fenêtre élevée, qui s'est endormi, qui est tombé, qui est mort, regardez. Et Paul l'a ressuscité. Il y avait beaucoup de larmes dans la chambre haute où nous étions assemblés, acte 20, verset 8. Or, un jeune homme nommé Eutychus, qui était assis sur la fenêtre, s'endormit profondément pendant le long discours de Paul. Entraîné par le sommeil, il tomba du 3e étage en bas et quand on voulut le relever, il était mort. Le jeune homme était mort. Et regardez après ce qui s'est passé. Mais Paul, étant descendu, se pencha sur lui et le prit dans ses bras en disant, « Ne vous troublez pas, car son âme est en lui. » Donc, il vit maintenant. Sa vie est revenue en lui. Voyez-vous, Paul a fait des grands miracles. Mais Dieu n'a pas toujours répondu oui aux demandes que Paul a fait pour lui-même. Ça, c'est frappant aussi. À 2 Corinthiens, allez dans le 2e livre de Corinthiens, s'il vous plaît. On va voir un passage que vous connaissez sans doute, mais qui va exactement dans le sens de ce que je vous mentionne aujourd'hui. 2 Corinthiens, chapitre 12. Paul, même s'il avait fait de grands, grands miracles, qui était un serviteur de Dieu reconnu, Dieu n'a pas toujours répondu oui à ses demandes pour lui-même. 2 Corinthiens 12, versets 7 à 9. Et pour que je ne sois pas enflé d'orgueil, à cause de l'excellence de ses révélations, il m'a été mis une écharpe dans la chair, un ange de Satan, pour me souffleter et m'empêcher de m'enorgueillir. Et avez-vous remarqué, je le sais par expérience, quand on est malade, quand on sent nos limitations humaines, on sent le besoin de Dieu et on se rend compte qu'on n'est pas tellement puissant, qu'on dépend vraiment de Dieu. Il dit, pour m'empêcher de m'enorgueillir, verset 8, 3 fois, j'ai prié le Seigneur de l'éloigner de moi. 3 fois, il a demandé l'onction. Et il m'a dit, ma grâce te suffit, car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. Ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. Et moi, je vous dis, honnêtement, j'ai vu souvent et ça m'a chaque fois impressionné beaucoup. J'ai vu souvent des membres de l'Église malades, dans des situations pénibles, difficiles, très affaiblis physiquement, mais forts spirituellement, avec une paix d'esprit. C'est pas logique. Ça vient de Dieu. C'est la paix d'esprit de Dieu. Quand quelqu'un se sent faible, qu'il voit sa condition, qu'il la reconnaît devant Dieu, qu'il demande son aide et qu'il accepte, quelle que soit la décision de Dieu, cette décision-là, il a la paix d'esprit et il est fort spirituellement, même s'il est physiquement faible. Vous savez une chose, le but de Dieu, là, pour vous comme pour moi, ce n'est absolument pas de nous éviter toutes les difficultés, de nous éviter toutes les épreuves, de nous éviter tous les malaises, toutes les maladies, toutes les pertes, absolument pas. C'est de nous aider à travers ça, à développer son caractère. Et ces choses-là, les gens autour de nous qui ne sont pas dans l'Église en vivent eux aussi. Ils ont des difficultés, ils ont des épreuves, ils ont des maladies, comme nous. Nous vivons la vie de tout le monde en même temps. Mais nous avons Dieu comme bouclier, comme refuge, comme aide. Et à travers tout ça, ce que Dieu fait, c'est qu'il nous donne de développer son caractère, d'apprendre à nous en remettre à lui totalement, à lui faire confiance et à aller de l'avant pour vouloir changer et se préparer à régner dans le monde à venir pour aider tout ce monde-là autour de nous. Nous avons besoin, je vais plus loin, nous avons besoin de subir des tests et des afflictions. Ça fait drôle de dire ça, mais c'est la réalité. Nous avons besoin de subir, ou je devrais dire, de souffrir des tests et des afflictions. Pourquoi? Pour développer endurance, pour développer persévérance, pour développer patience. Parce que quand tout va bien, qu'il n'y a pas de test, qu'il n'y a pas d'épreuve, on n'a pas besoin de patience, on n'a pas besoin de persévérance. Mais quand il y a des difficultés, c'est là qu'il faut décider d'être patient en demandant l'aide de Dieu pour continuer, pour aller de l'avant, même si c'est difficile, sous le stress, sous la pression. Mais là, on est en train de développer le caractère de Dieu. Écoutez, le Christ a subi de grandes pressions. Lui-même a été tenté en toutes choses. Il a même supplié Dieu avec larmes pour qu'il l'aide, en pleurant pour que Dieu l'aide, parce qu'il était tout à fait humain. Il nous a tracé la voie dans ce sens-là. Il demandait à son Père son aide. Pourquoi est-ce que nous, on a maintenant à traverser difficultés, épreuves, maladies, afflictions et tests de toutes sortes? C'est parce que l'Église connaîtra les temps qui mettront bientôt notre foi à l'épreuve, à dure épreuve. Et à ce moment-là, notre foi devra être déjà affermie pour qu'on soit capable d'affronter des choses plus difficiles. Mais oui, il y a une question de graduation là-dedans. Sans cette préparation présente que Dieu permet et dans laquelle il nous aide, nous pourrions échouer. C'est vrai. Si on n'a pas jamais eu aucune difficulté dans notre vie et que tout à coup, rendu à un âge plus avancé, là il arrive une difficulté, on n'a pas été entraîné à ça. On n'a pas été entraîné à y faire face, à tenir bon, malgré les choses contraires. Mais si on a été entraîné à ça, quand vient des difficultés plus énormes, on est capable d'y faire face. Et on risque de ne pas échouer. Allez dans Romains chapitre 5. Romains chapitre 5, et on va lire à partir du verset 3. Romains chapitre 5. On va lire à partir du verset 3. Bien plus, c'est Paul qui parle encore. Paul qui a fait de nombreux miracles et auquel Dieu a refusé la guérison. Bien plus, nous nous glorifions même des afflictions. Regardez comment ça va loin. Pas parce qu'on est content d'être affligé. Il n'y a pas personne qui aime ça. Mais il dit, on se glorifie des afflictions. Pourquoi? Parce que les afflictions produisent des choses en nous qui sont nécessaires au salut, sont nécessaires pour que nous passions à travers des épreuves plus grandes. Il dit, nous nous glorifions même des afflictions, donc nous savons l'importance des afflictions, pas parce qu'on court après, mais quand elles sont là, on accepte de les vivre et on demande l'aide de Dieu, parce que même des afflictions, on s'en glorifie, sachant que l'affliction produit quoi? La persévérance. C'est de ça dont je vous parle. Ça produit la persévérance. Et la persévérance, à son tour, produit quoi? La victoire dans l'épreuve. Cette persévérance-là nous amène vers la victoire. Parce que si on cesse de persévérer, on cesse d'être en marche vers le but. Mais si on persévère, malgré les épreuves, on est en marche vers le but, même si on ne l'a pas atteint, même si c'est difficile. Et vous savez, Dieu fait plusieurs petits miracles dans la vie de ses appelés qui tiennent bon, qui lui font confiance malgré les épreuves, malgré les afflictions. Il y a plusieurs petits miracles d'aide de Dieu en cours de route là-dedans pour que nous soyons capables de passer à travers, pour que nous soyons capables de tenir bon. Et ça, c'est des promesses de Dieu, des promesses infaillibles. Mais ces miracles-là qu'il accomplit, c'est des tout petits miracles qui ne sont pas spectaculaires pour le public, mais qui sont tellement encourageants pour chacun de nous quand nous les expérimentons, quand ils nous donnent de les vivre. Et vous savez une chose, pour l'ensemble des membres de l'Église à travers le monde qui sont dans cette situation-là, qui bénéficient des petits miracles de Dieu, qui ne sont pas connus du public, mais qui encouragent individuellement, je pourrais appeler ça la préparation discrète de Dieu à son peuple. Dieu prépare son peuple de façon discrète pour que nous soyons prêts lorsque le Christ sera revenu. Il y aura, bien sûr, avant longtemps, de très grands miracles qui vont se produire. Des miracles qui seront vus par le public en général. Des miracles éclatants. Ces miracles publics spectaculaires, comme on voit dans la Bible, ça se produit seulement quand Dieu en a besoin. C'est lui qui décide ça. C'est lui qui est en charge. Et chaque fois, c'est pour un but spécifique dans son œuvre, quand c'est des grands miracles spectaculaires. Et quand c'est des miracles plus personnels, plus individuels ou plus privés, c'est pour nous encourager. Mais dans tout ça, que ce soit des grands miracles spirituels, des grands miracles spirituels spectaculaires ou de petits miracles spirituels dans nos vies, il faut que ce soit toujours selon sa volonté. Vous irez voir dans 1 Jean 5, verset 14. 1 Jean 5, verset 14, je vous lis le principe ici qui nous est donné. Jean dit ceci, « Nous avons auprès de lui cette assurance. » C'est formidable parce qu'on peut avoir de l'assurance devant Dieu. « Nous avons auprès de lui cette assurance que si nous demandons quelque chose selon sa volonté, et ça c'est le point important, il nous écoute. » On peut demander des choses à Dieu, comme nous pensons, mais il faut s'assurer que ce soit selon sa volonté. Il faut accepter la réponse, quelle qu'elle soit. C'est toujours selon sa volonté, parce que lui accomplit son plan, et pour l'ensemble du monde, et pour son Église actuellement, et pour le monde de demain. À notre époque, si nous ne voyons pas encore de grands miracles publics, c'est parce que l'œuvre de Dieu n'en a pas encore besoin. Ça va venir. Et quand ça va venir, ça va être éclatant. Il y a une autre raison pourquoi il n'y a pas de grand miracle en ce moment non plus. Parce que ça entraînerait automatiquement des persécutions intenses contre l'Église. Et nous ne serions pas en mesure de faire et d'accomplir la mission qui nous a été confiée, d'annoncer, de continuer d'annoncer l'Évangile au monde entier jusqu'à la fin. Si on peut être capable de le faire jusqu'à la fin. C'est ce que le Christ nous a dit. Cette bonne nouvelle sera prêchée dans le monde entier pour servir de témoignage. Alors viendra la fin. Alors, s'il y avait de grands miracles publics comme ça, ça amènerait automatiquement des persécutions et ça bloquerait le travail de l'Église. Comme au temps des apôtres. C'est d'ailleurs ce qui est arrivé. Parce que les dirigeants religieux de l'époque ne voulaient pas perdre leur influence, ne voulaient pas perdre leur poste. Et ils ont barré la route aux apôtres. Bien sûr, ils n'ont pas réussi, mais ils ont créé des persécutions horribles. Vous savez, le principe, c'est celui-ci, c'est qu'un miracle ne convertit pas vraiment les gens. Les gens ont beau voir des grands miracles, ça ne change pas le cœur. Une vraie conversion, c'est un changement de cœur intérieur. Quelqu'un qui se repent d'avoir transgressé les lois de Dieu, qui demande pardon, qui passe par les eaux du baptême, qui reçoit l'Esprit de Dieu. Ça, c'est un vrai repentir. Et là, à ce moment-là, on s'en va vers le salut. Et il n'y a pas besoin de miracle pour convaincre de ça. Ça se passe entre Dieu et la personne. Et la personne le sait, il le sent, par l'Esprit de Dieu. Mais un miracle comme tel ne convertit pas les gens. Même quand c'est un très grand miracle. Il y a eu, on le voit, au moment du début de l'Église du Nouveau Testament, et même à l'époque de Christ, à cette époque-là, de très grands miracles, un que le Christ a fait en particulier, lorsqu'il a ressuscité Lazare. Et ce que ça a fait, c'est que ça a provoqué une persécution épouvantable. Allez dans Jean 11. On lira pas tout le récit de la résurrection de Lazare par le Christ, mais regardez ce qui en est résulté. Ça, c'est un miracle public, là, que les gens ont vu. Mais à chaque fois, ça l'a amené la persécution, et dans certains cas, grande persécution. Jean 11, verset 53. Dès ce jour, après que Lazare eut été ressuscité, vous pourrez lire le contexte. Dès ce jour, ils résolurent de le faire mourir. À partir de ce moment-là, quand le Christ a ressuscité Lazare, les chefs religieux ont décidé de faire mourir le Christ. Mais pas juste ça. Ils voulaient effacer les traces de son grand miracle. Regardez la page suivante, peut-être dans Jean 12, verset 10. Jean 12, verset 10, c'est la continuation de l'explication. Les principaux sacrificateurs délibérèrent de faire mourir aussi Lazare. Ils ont voulu même effacer les traces du miracle que le Christ avait fait. Voyez-vous, quand je vous dis que Dieu ne permet pas qu'il y ait de grands miracles à notre époque, parce que ça empêcherait l'œuvre d'être terminée. Combien de fois le Christ a fait des grands miracles et a dit aux gens, n'en parlez pas, parce qu'il voulait pas que ça nuise à son ministère. Et si le Christ ne permet pas qu'à ce moment-ci, il y ait de grands, grands miracles comme ça connus du public en général, c'est pour nous permettre de terminer l'œuvre. On va voir d'autres grands miracles des apôtres qui ont amené de la persécution. Allez dans Acte 5. C'est bon qu'on voit certains autres éléments de ça pour qu'on voit ce qu'il en est exactement et pourquoi Dieu ne permet pas qu'il y ait de grands, grands miracles comme ça actuellement, mais il va bientôt permettre qu'il y en ait. Acte 5, on va commencer à lire au verset 12, début du verset 12. Beaucoup de miracles et de prodiges se faisaient au milieu du peuple, donc à la vue de tout le monde, par les mains des apôtres. Alors voyez-vous, ça c'était le début de l'Église, et Dieu attestait que c'était bel et bien son Église, par ça. Maintenant, voyez plus loin ce qui est arrivé à cause de ça, versets 17 et 18 du même chapitre. Cependant, le souverain sacrificateur et tous ceux qui étaient avec lui, savoir le parti des Sadducéens, se levèrent remplis de jalousie. Ils voulaient pas perdre leur place, et ils étaient jaloux de ce que les apôtres faisaient, remplis de jalousie. Mirent la main sur les apôtres et les jetèrent dans la prison publique. Est-ce qu'ils se sont réjouis qu'il y ait eu des miracles? Non. Ils ont comploté pour essayer de détruire ceux qui faisaient des miracles. Prenons l'exemple de Paul, par exemple. Allez à Actes chapitre 14, s'il vous plaît, juste un peu plus loin. Actes chapitre 14. On va voir quelque chose qui nous enseigne dans le même sens. Actes chapitre 14. Le contexte ici, c'est que Paul et Barnabas étaient dans la ville de Lystre. Et à ce moment-là, ils ont vu un paralytique, un homme qui n'avait jamais marché. Paul l'a guéri instantanément. Vous pourrez lire le contexte à partir du verset 8 dans Actes 14. L'homme a été guéri instantanément. Qu'est-ce qui est arrivé? Les gens, le public qui a vu ça, ont voulu rendre un grand hommage à Paul et à Barnabas. Ils les ont littéralement adorés. Ils voulaient leur offrir même des sacrifices, comme on fait à des dieux. Et ils leur ont dit, vous êtes des dieux. Voyez-vous la réaction des gens, la réaction du public. Mais je m'arrête pas là, parce qu'il est passé quelque chose tout de suite après. Mais voyons Acte 14, verset 18. Verset 18. À peine purent-ils, par ces paroles, empêcher la foule de leur offrir des sacrifices. Paul et Barnabas ont dû plaider avec la foule pour dire, écoutez, on n'est pas des dieux, on est des êtres humains, etc. Et ce qui a été fait, ça a été fait par la puissance de Dieu. Ils ont réussi à les empêcher de leur offrir des sacrifices comme s'ils étaient des dieux. Donc, la foule les adulait, comme c'est pas possible, même les adorait. Mais regardez la même foule, quelques instants après. Verset 19. Alors, survinrent d'Antioche et d'Icône, des Juifs qui gagnèrent la foule, et qui, après avoir lapidé Paul, le traînèrent hors de la ville, pensant qu'il était mort. Le même Paul, auquel ils s'apprêtaient à offrir des sacrifices en disant, c'est un dieu, ils l'ont lapidé. Ils l'ont tué littéralement. Il est possible que Paul ait été mis à mort à ce moment-là. Lapidé, tout de suite après avoir été adulé et après avoir fait un miracle extraordinaire. Grande persécution qui a suivi tout de suite. Maintenant, je pose une question. Comment l'Église, comment les ministres de Dieu sauront-ils quand viendra le temps d'accomplir de grands miracles? Quand est-ce que l'Église saura que c'est le temps d'accomplir de grands miracles? Je vais vous montrer bibliquement parlant que ce sera très clair et que ça va venir de Dieu en son temps, à sa façon. C'est très simple. Ça va se passer quand les deux témoins auront été désignés par Dieu pour annoncer la dernière annonce de l'Évangile sur la terre entière à partir de Jérusalem, comme vous savez, par la prophétie qui est marquée dans la Bible. Mais comment est-ce que l'Église saura que le temps est venu d'accomplir de grands miracles? C'est très simple. Exactement comme Dieu a fait pour Moïse, il va leur dire. Il va les inspirer. Et quand on regarde dans les écrits de l'apôtre Pierre nous a donné le principe de ça. Allez dans 2 Pierre chapitre 1. 2 Pierre chapitre 1. Deuxième livre de Pierre, chapitre 1. Pierre nous explique comment Dieu a procédé dans le passé. Et Dieu va, qui est le même hier, aujourd'hui, éternellement, le même Dieu, va procéder de la même façon. Quand le temps viendra pour désigner ses deux témoins et les mettre en place. 2 Pierre 1, verset 21. Car ce n'est pas par une volonté d'homme qu'une prophétie a jamais été apportée. Mais c'est poussé par le Saint-Esprit que des hommes ont parlé de la part de Dieu. Voyez-vous, ces hommes-là ont été poussés par le Saint-Esprit. Ça devenait clair en eux autres. C'était évident. Ils savaient quoi faire. Ils savaient quand c'était le temps et qu'est-ce qu'ils devaient dire. Parce que l'Esprit leur disait. Ça, c'est le principe ici. Ça a été fait dans le passé avec les serviteurs de Dieu. Quand il y a eu des choses à faire. Quand il y a eu des grands miracles spectaculaires à accomplir. Et ça sera le cas encore bientôt en ce qui concerne les deux témoins. Je vous donne rapidement deux exemples de ça. Deux prophètes de Dieu qui disent dans leurs propres mots que c'est Dieu, par son esprit, qui les a inspirés de faire et de dire ce qu'ils ont fait et ce qu'ils ont dit. Ne vous y reportez pas, je vais simplement vous citer. Notez Ézéchiel 11, verset 5. Ézéchiel 11, verset 5, vous irez voir, c'est écrit, et c'est Ézéchiel qui parle. « L'Esprit de l'Éternel tomba sur moi et me dit. » Alors, voyez-vous, l'Esprit de l'Éternel, Dieu par sa puissance, a inspiré Ézéchiel de dire telle chose. Et Ézéchiel savait ce qu'il disait et qu'il fallait qu'il le dise. La même chose pour Jérémie. Vous irez voir Jérémie 2, verset 1 et 2. Jérémie 2, verset 1 et 2. Regardez ce que Jérémie dit. « La parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. Va, crie aux oreilles de Jérusalem. » Alors voyez-vous, la parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. Alors voyez-vous, tout ça se tient. Tout ça se tient. Dieu agit toujours de la même façon. Et quand le temps sera venu pour que d'une façon éclatante, l'Évangile soit annoncé au monde entier, ce sera fait par les deux témoins. Nous, en tant que sa petite Église actuellement, à laquelle il permet, dans de bonnes conditions encore, d'annoncer l'Évangile à travers le monde entier, au niveau qu'on peut faire. Après que ça aura été terminé et que viendra ce que la Bible appelle la famine de la parole, qu'on ne pourra plus prêcher. Et si vous remarquez, ça commence déjà d'une certaine façon. Parce qu'il y a un certain nombre de stations aux États-Unis, au Canada, en Australie, en France, ailleurs, qui ne permettent plus des émissions religieuses d'être diffusées sur leur réseau. Donc, ça commence à être moins possible. Par contre, jusqu'à maintenant, Dieu a pourvu en nous donnant d'autres stations. Comme nous ici, VTL nous a empêché de continuer à proclamer l'Évangile sur cette station, mais on a ici Télévision qui nous a ouvert une porte. Mais vient le jour où ce ne sera plus possible, où il y aura famine de la parole. Ce sera terminé en ce qui concerne le travail de l'Église actuellement. Et même à ça, je me rappelle, j'avais posé la question à M. Appartien, et M. Appartien m'avait dit, je me rappelle très bien où on était dans la voiture, on s'en allait vers Trois-Rivières, il était venu à Québec, et je le reconduisais à Trois-Rivières avec son épouse, avec mon épouse. On était assis à l'avant, puis je lui posais des questions par rapport à quand est-ce que ça allait arrêter. Et il m'avait dit, M. Brochu, rappelez-vous que c'est écrit, on n'aura pas le temps de faire le tour des villes d'Israël que le Christ sera revenu. Ça m'avait encouragé. Et ça nous montre que on n'aura pas tout complété. On aura fait ce que Dieu va nous permettre de faire. Mais à ce moment-là, Dieu va susciter ces deux témoins qui, eux, vont prêcher un évangile, le même évangile que nous avons toujours prêché, mais qui vont prêcher un évangile qui va aller partout, sur toute la face de la terre, par tous les moyens de communication qui seront à ce moment-là mis à leur disposition, pour ainsi dire, parce qu'ils vont accomplir des choses tellement frappantes, tellement éclatantes, que tous les réseaux vont vouloir suivre ça, et ça va durer pendant 3 années et demie. Ça va bouleverser toute la terre, mais l'évangile de Dieu, à ce moment-là, aura couvert toute la planète, selon la prophétie qui nous a été annoncée. Formidable! Formidable! Alors, Dieu, quand le temps sera venu, Dieu va désigner qui sont ces deux témoins. Quelqu'un m'a demandé justement cette semaine, savez-vous qui sont les deux témoins? Tout le monde s'est déjà posé cette question-là. Mais ces deux hommes-là ne sont pas connus encore. Ils seront connus quand le temps de Dieu sera venu. C'est toujours la même chose. Quand le temps de Dieu vient pour qu'une chose se réalise, elle se réalise. Parce que Dieu est le Tout-Puissant. Et il fait se réaliser exactement à la lettre tout ce qu'il a planifié d'avance. Et on voit que ce qu'il a planifié pour nous, à notre époque, ce n'est pas d'avoir des miracles éclatants qui surprennent tous les gens autour de nous. Il a planifié une grande série de miracles pour ses enfants, des miracles privés, pour que nous soyons encouragés, protégés, guéris ou non, dirigés, béni, soutenu, ainsi de suite. Alors, c'est là où nous vivons et nous sommes en train de terminer l'œuvre qu'il nous a confiée avant que les deux témoins seront désignés. Mais c'est Dieu qui va désigner. Peut-être qu'on sera surpris. Et je me dis des fois, j'en parle à Dieu dans mes prières, et je me dis, Dieu, à voir les événements qui avancent, on sait que la fin est vraiment proche. Donc, ces deux hommes-là doivent être vivants quelque part dans l'Église. Alors, je vais pas plus loin, là. Je fais pas d'extrapolation ou de conclusion, mais je dis à Dieu, ces deux témoins-là doivent être vivants dans ton Église. Prépare-les. Donne-leur la force physique. Donne-leur la force spirituelle. Prépare les circonstances où ils devront aller à Jérusalem au milieu de grands problèmes. Et par tes puissants miracles encore, ils seront capables, à partir de là, dans des conditions épouvantables autour, de prêcher l'Évangile au monde entier pendant 3 années et demie. Ce n'est pas rien. Le Dieu que nous servons est un Dieu puissant. Alors, ce qui va arriver quand Dieu va désigner ces deux hommes-là, Dieu va leur révéler qu'il leur donne la connaissance et l'autorité. Et il va leur donner à ce moment-là la connaissance qu'ils auront besoin. Et il va leur donner l'autorité. Et à ce moment-là, il va leur révéler aussi, comme il a fait avec Moïse, qu'il leur donne le pouvoir d'accomplir des miracles à volonté, bien sûr, sous son inspiration, sous l'inspiration de Dieu. Il va leur révéler, il va leur donner ce pouvoir, cette autorité, la connaissance nécessaire, et ils sauront qu'ils pourront accomplir des miracles à volonté pour terminer l'annonce de l'Évangile au monde entier. Ça va se faire durant un certain temps. Et vous savez, Dieu leur inspirera quoi dire. La même chose que pour les membres de l'Église qui seront appelés, un jour ou l'autre, à témoigner devant des tribunaux de leur foi, comme la Bible dit. Hein? Qu'est-ce que le Christ nous a dit? Ne vous inquiétez pas de ce que vous aurez à dire. Il vous sera donné sur le champ de savoir comment répondre et ce que vous direz ne pourra pas être contredit. Ce sera par la sagesse de Dieu que vous parlerez. Alors, ce sera la même chose pour ces deux témoins-là. Dieu va leur donner, au fur et à mesure, et j'imagine, selon aussi les circonstances qui vont continuer de se développer autour de la planète. Dieu va leur donner la sagesse et le discernement pour expliquer ce qui se passe, pour expliquer le repentir nécessaire des nations, pour expliquer au monde ce qui s'en vient, pour leur montrer qu'est-ce que c'est le vrai repentir. Et certains qui entendront ça se repentiront, parce qu'on sait qu'il y a une grande foule qui doit se repentir dans la grande détresse, parce qu'ils auront entendu à ce moment-là aussi. Certains vont se rappeler ce qu'ils entendent maintenant. D'autres se rappelleront ce qu'ils entendront à ce moment-là et se convertiront. Voyez-vous, l'œuvre de Dieu continue de s'accomplir. Et Dieu sait qui il appelle, Dieu sait qui il va appeler à ce moment-là. Allons dans Apocalypse, le chapitre 11, pour voir justement les événements entourant le travail de ces deux témoins de Dieu. Travail qui va se faire bientôt. Alors, Apocalypse 11, lisons le verset 3. C'est Dieu qui parle et dit, « Je donnerai à mes deux témoins, ceux qu'il va désigner plus tard, le pouvoir, là il leur donne le pouvoir, l'autorité, de prophétiser, d'annoncer ce qui vient, d'expliquer pourquoi ça va si mal dans le monde, revêtus de sacs pendant 1260 jours. » 1260 jours, ça équivaut aux 3 années et demie de la grande détresse. Durant tout ce temps-là, ils vont proclamer l'évangile de Dieu. Personne ne pourra les empêcher. Absolument. Il dit, verset 4, « Ce sont les deux oliviers et les deux chandeliers qui se tiennent devant le Seigneur de la terre. Si quelqu'un veut leur faire du mal, du feu sort de leur bouche et dévore leurs ennemis. » Ce sera éclatant, ce sera frappant. Comprenez-vous pourquoi je vous dis que tous les réseaux de la planète vont vouloir être branchés sur ce que ces hommes-là vont dire et vont faire. Et si quelqu'un veut leur faire du mal, il faut qu'ils soient tués de cette manière. Ils ont le pouvoir de fermer le ciel afin qu'il ne tombe point de pluie pendant les jours de leur prophétie. Exactement la même chose que ce qu'Élie a fait durant 3 ans et demi dans le passé, comme on voit dans les textes. Et ils ont le pouvoir de changer les eaux en sang et de frapper la terre de toute espèce de plaie chaque fois qu'ils le voudront. Chaque fois qu'ils le voudront. Et ça, c'est exactement comme Moïse et Aaron ont fait. On peut dire qu'à cette époque-là, c'était les deux témoins de Dieu. Dieu leur a accordé l'autorité, la connaissance, les paroles, le pouvoir d'accomplir des miracles et d'accomplir son œuvre dans ce contexte-là. Alors, les deux témoins du temps de la fin vont remplir, pour ainsi dire, le rôle de Moïse et d'Aaron. Quand Dieu jugera ensuite que leur travail sera complété, que leur travail sera terminé, Dieu, à ce moment-là, va leur enlever la capacité de faire des miracles. Ils ne pourront plus faire d'autres miracles. Ce sera terminé. Leur travail sera terminé. Comme pour le travail de l'œuvre. Quand le travail de l'œuvre sera terminé, Dieu va emmener ses serviteurs en un lieu de sécurité. Ce sera terminé. C'est une autre étape. Alors, après qu'ils auront fait toutes ces choses, et on voit que dans ces choses, ça ressemble beaucoup à ce que Moïse et Aaron ont fait. Ils ont le pouvoir de changer les eaux en sang. Moïse avait fait ça. Le fleuve du Nil a été changé en sang. Et de frapper la terre de toute espèce de plaie chaque fois qu'ils le voudront. Ça va ressembler un peu aux 10 plaies d'Égypte. Pas identique, mais à partir de là, on peut avoir une petite idée en général que ce sera des choses terribles. Mais quand leur travail sera estimé terminé, Dieu va leur enlever ce pouvoir de faire des miracles. Pas seulement ça. Jusque-là, vous avez remarqué, quand quelqu'un leur faisait du mal, il réagissait tout de suite et ces personnes-là même étaient tuées. Alors qu'à ce moment-là, Dieu va, une fois leur travail terminé, Dieu va retirer sa protection de ces deux témoins. Et il va permettre qu'ils soient tués, qu'ils soient mis à mort. Regardez le verset 7. « Quand ils auront achevé leur témoignage, la bête qui monte de l'abîme leur fera la guerre, les vaincra et les tuera. » Et on voit dans le contexte que leurs corps resteront à la vue de tout le monde pendant 3 jours. Et après ça, ils seront ressuscités et ils seront enlevés vers le ciel. Le plan de Dieu s'accomplit. Et ce que je vous décris là, le travail des deux témoins qui approchent, Ce sont les miracles spectaculaires publics du temps de la fin, que Dieu va accomplir bientôt, selon ses promesses infaillibles, selon ses promesses assurées. Et par après, en rétrospective, quand on va regarder ce qui s'est passé, par après, en rétrospective, nous nous souviendrons des afflictions et des difficultés que nous avons présentement. Nous nous en souviendrons parce que ce sera quelque chose du passé. Et nous nous en souviendrons avec une grande joie parce que nous allons réaliser à ce moment-là qu'elles ont produit en nous, par la puissance de Dieu, le caractère divin nécessaire pour nous permettre d'entrer dans l'immortalité de la famille de Dieu.